Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi et bonne année à vous tous qui nous êtes fidèles. Un peu de douceur, du bonheur et surtout, plus que jamais, la santé. Elle est encore au cœur de l'actualité de ce lundi 4 janvier avec un verbe accéléré, verbe transitif du premier groupe qui signifie faire qu'un processus s'installe plus vite et avec plus d'ampleur. Vous avez compris à quoi il s'applique. À la vaccination qui patine, Emmanuel Macron tient d'ailleurs une réunion de crise cet après-midi à l'Élysée. Nous verrons aussi ce qui va changer cette semaine et nous serons en ligne avec Didier Chenet qui représente le Synorca, les hôteliers restaurateurs. Ils ne vont pas rouvrir le 20 janvier. C'est une information RTL. Stellantis, un néologisme pour désigner le quatrième constructeur automobile mondial. La fusion entre PSA et Fiat Chrysler a été validée ce matin par les actionnaires. Une victoire pour Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, ne sera pas extradé vers les États-Unis. Et puis le coup de cœur de nos correspondants régionaux. Aujourd'hui, nous partons à Bourgoin-Jallieu où on pratique un recyclage on ne peut plus écologique des sapins de Noël. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Bien hivernal pour commencer l'année.
Bien hivernal avec du gris quasiment partout, là, quand je regarde l'image satellite, quelques éclaircies quand même dans le sud-ouest, et encore, faut le dire vite, et sous cette grisaille, parfois quelques flocons. Alors là, c'est compliqué à localiser. Il y en a un peu sur la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, un peu autour du Val-de-Loire, et puis dans le sud, on aura aussi quelques averses sous forme de pluie ou de neige autour du Pays Basque, ou encore tout près de la Méditerranée, sur les Alpes, encore sur le relief Corse. Là aussi, de l'instabilité avec de la neige à basse altitude. Tout ça avec du froid, vous l'avez dit. Des températures qui ne dépasseront pas les 1 à 3 degrés seulement dans la plupart des régions cet après-midi, notamment dans la moitié nord. 3 à 6 degrés parfois dans le sud-ouest ou encore dans les régions du sud-est. Et puis près de la Méditerranée, quand même, on atteindra les 10 degrés.
Ah ben c'est déjà ça. La question du jour sur RTL.fr, elle concerne la campagne de vaccination. Redoutez-vous un échec? Il y a 74% de oui, 20% de non. On attend vos témoignages, vos arguments au 32-10. Bonjour et bonne année Pascal Pro.
Bonjour et bonne année Christelle, heureux de vous retrouver. Évidemment, on va beaucoup parler de cette campagne de vaccination. Est-ce que vous êtes déjà en colère contre cette lenteur? Vous pourrez nous appeler au 32-10. RTL vous révélait l'information ce matin. Les restaurants ne rouvriront pas le 20 janvier. On attend vos témoignages, notamment si vous êtes restaurateur. Vous pourrez évoquer également la rave party en Bretagne et l'impuissance de l'État à arrêter cette rave party. 2500 personnes étaient concernées. Puis vous avez peut-être vu les images de la première séance de dédicace de Miss France, Amandine Petit, qui font polémique. Tous ces sujets seront développés entre 13h et 14h30.
RTL Midi. Et pour commencer, donc, quelques chiffres. 516, c'est le nombre de personnes vaccinées en France. Elles sont 80 000 en Italie, 238 000 en Allemagne. Or, nous avons commencé tous en même temps cette campagne de vaccination européenne. Mais la Haute Autorité de Santé maintient malgré tout sa stratégie, même si elle reconnaît qu'il faut accélérer. Et ce sera le cas dès aujourd'hui, en particulier dans les EHPAD, Virginie Garin.
Oui, hein, car la stratégie, c'est de vacciner en priorité les 700 000 résidents des EHPAD. C'est la population la plus fragile qui représente un tiers des décès liés au Covid. Alors la semaine dernière, les directions des établissements ont surtout passé du temps à recueillir les consentements, parfois en appelant les familles. Maintenant, la vaccination va vraiment commencer. 300 EHPAD vont être livrés cette semaine sur les 14 000 en France. Et puis ça va monter en puissance, promet le ministère de la Santé. Donc dans les EHPAD, en tout, près de 15 000 personnes peuvent être vaccinées dès cette semaine. Ensuite, le gouvernement a décidé de rajouter les personnels soignants de plus de 50 ans. Alors là, ça va aller plus vite car ils vont, eux, se rendre à l'hôpital. Ils seront vaccinés à Paris, Lyon, Lille, Tours dès aujourd'hui, mais pas partout. Hein. Ce n'est que mercredi que tous les départements seront approvisionnés en doses.
Et que pourrait-on faire, Virginie, pour aller plus vite ?
Alors, ce qui compte, c'est de sauver les plus vulnérables. Donc, on pourrait proposer aux personnes âgées qui vivent chez elles et qu'ils peuvent de se déplacer à l'hôpital. On pourrait vacciner aussi les gens atteints de maladies comme l'hypertension, les cancers, les maladies cardiaques. Mais ce n'est pas au programme tout de suite. Hein. Elles devront attendre la mi-février. Priorité donc aux EHPAD et aux soignants. Et l'objectif reste toujours de vacciner 1 million de personnes en janvier.
Virginie Garin, on est face à un scandale d'État, dit ce matin Jean Rottner, le président Les Républicains de la région Grand Est. Il ajoute qu'on poursuit une politique qui fait la preuve de son échec par le passé sur les masques ou encore les tests. L'écologiste Yannick Jadot dénonce un fiasco. Emmanuel Macron tient cet après-midi finalement une réunion de crise à l'Élysée qui n'était pas à son agenda au départ. Le chef de l'État avait évoqué des lenteurs injustifiées lors de ses vœux et ça risque d'être tendu tout à l'heure car ces critiques ont été mal ressenties à Matignon, Jacques Seret.
Oui, Jean Castex assume sa stratégie. Cette campagne de vaccination, c'est une affaire qui va durer 6 mois, se défend le Premier ministre. À l'arrivée, la situation, promet-il, sera totalement équilibrée. Le recadrage d'Emmanuel Macron lors de ses vœux, avant le coup de gueule orchestré dans le journal du dimanche où il réclame d'accélérer la campagne, n'a pas été du goût de Jean Castex. À quelques proches, il a d'ailleurs fait cette confidence. Le président est sensible à ce que dit l'opinion et je peux le comprendre. Et le Premier ministre d'argumenter, oui, il y a des pays qui vont plus vite, mais il y en a aussi qui n'ont même pas commencé. C'est comme si on jouait un match de foot de 90 minutes et que dès la deuxième seconde, on disait « Oh mon Dieu, ça ne va pas, vous allez perdre !» s'agace-t-on dans l'entourage du Premier ministre. Pour autant, Jean Castex n'est pas sourd aux critiques. Selon nos informations, Matignon n'écarte plus l'ouverture de grands centres de vaccination pour aller plus vite et marquer les esprits. Un léger changement de pied alors que jusqu'à présent, l'exécutif avait placé au cœur de la stratégie de vaccination les cabinets des médecins généralistes.
Jacques Seret, les soignants effectivement ont un rôle majeur dans la vaccination et ce matin sur RTL, le docteur Gianotti, vice-présidente du syndicat de médecins généralistes MG France, s'est énervée. Elle veut être vaccinée pour mieux soigner et elle n'est pas la seule.
On oublie trop souvent dans l'argumentaire que le vaccin est à la fois une protection individuelle et une protection collective. Et donc moi j'en ai marre que les gens ne puissent pas aller embrasser leur grand-mère, qu'on soit là avec les masques, qu'on ne puisse pas voir les copains, c'est infernal. Donc il faut à la fois se protéger nous-mêmes. Moi j'ai envie d'être protégée, j'ai pas eu le Covid, mes deux collègues l'ont eu. Je suis la plus âgée de la bande, ouais. Je suis bien contente de me faire vacciner dès que je vais pouvoir le faire. Mmh. Donc je veux être protégée moi-même et j'en ai marre de cette chape de plomb qui est sur le pays, quoi. Donc vaccinons-nous, mais pour qu'on puisse le faire, donnez-nous les vaccins, s'il vous plaît, le plus rapidement possible.
Bon, ça veut dire qu'il est clair pour vous qu'on n'a pas les vaccins, en tout cas en
nombre. Moi, je ne les ai pas. Moi, je ne les ai pas et je commence à être un peu énervée parce qu'on m'en donne, je vaccine demain. On est 50 000 médecins généralistes sur le terrain. Je peux vous dire que si on avait les outils pour vacciner, ça irait beaucoup plus vite.
Agnès Gianotti ce matin avec Yves Calvi. Et pendant ce temps, le Royaume-Uni, qui avait été le premier à vacciner en Europe, est aussi le premier à se lancer dans l'injection d'un deuxième vaccin, celui du groupe AstraZeneca. Un retraité de l'hôpital d'Oxford s'est fait vacciner devant les caméras. Vu le niveau de contamination outre-Manche et la mutation du virus, le Royaume-Uni est dans l'urgence. 55 000 personnes supplémentaires ont été testées positives ces dernières 24 heures. Les restaurants ne vont pas rouvrir de sitôt. On en parle dans un instant.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
RTL vous le révélait ce matin, les restaurants et les bars ne vont pas rouvrir le 20 janvier. L'annonce n'est pas officielle, mais le principe a été acté par le Premier ministre en petit comité, et ce avant même d'avoir les chiffres de contamination de la période des fêtes. Faisons le point justement avec vous, Agathe Landais. Que disent les derniers indicateurs ?
Eh bien que les chiffres ne sont pas bons. Certes, on n'a pas encore de reprise épidémique, mais on est toujours sur ce fameux haut plateau. Le nombre de nouveaux cas positifs stagne toujours autour de 15 000 contaminations par jour. C'est 3 fois plus que l'objectif fixé par le gouvernement. D'autant que, vous l'avez dit, on n'a pas encore les effets des fêtes de Noël et du Nouvel An. Il faut à peu près 2 semaines pour commencer à voir leur impact sur les contaminations. On devrait donc y voir un petit peu plus clair d'ici la fin de cette semaine. Mais le Conseil scientifique redoute déjà une reprise épidémique.
Bon, les bars et les restaurants ne rouvriront pas, mais d'autres secteurs risquent d'être concernés eux aussi.
Oui, à commencer par les salles de sport. Le contexte sanitaire n'est vraiment pas favorable à leur rouverture. C'est ce que nous disait le cabinet du ministre de la Santé la semaine dernière. Les lieux de culture attendent aussi une décision prévue initialement pour le 20 janvier. Les salles de spectacle, les musées, les cinémas. Mais le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, préparait déjà les esprits la semaine dernière, estimant qu'il est, je cite, « très peu probable qu'il puisse rouvrir ». Restent enfin les stations de ski. Jean Castex envisageait de relancer les remontées mécaniques ce jeudi. Les professionnels du secteur enchaîne donc les réunions cet après-midi avec des cabinets ministériels pour essayer de défendre leur protocole sanitaire. Mais là aussi, très peu de chances de rouvrir, d'autant que de l'autre côté des Alpes, en Italie, la rouverture des stations a elle aussi été repoussée pour encore 2 semaines.
Agathe Landais, et nous sommes avec Didier Chenet, président du Groupement National des Indépendants de l'Hôtellerie et de la Restauration. Bonjour Monsieur Chenet.
Bonjour.
Avez-vous été informé d'une manière ou d'une autre de cette non-réouverture ?
Non, nous n'avons pas été informés et donc c'est en vous écoutant ce matin que je l'ai appris.
Est-ce que vous vous y attendiez ?
Écoutez, le président de la République avait conditionné la réouverture des restaurants sur la base donc de 5000 contaminés, comme l'a rappelé Agathe Landais il y a quelques instants. On en est très loin, donc c'est pas une surprise pour nous. Mais nous sommes très 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 inquiets, vraiment, je tiens à le dire. C'est une profonde inquiétude que nous ressentons. Je dirais que même les propos du président de la République, lorsqu'il, dans ses vœux, il nous a dit « quoi qu'il arrive », mais ça veut dire quoi qu'il arrive ? Est-ce que les milliers d'entreprises, les centaines de milliers d'emplois qui sont aujourd'hui en jeu, ça fait partie du dispositif ? Ça fait partie du fait qu'on accepterait ? Pour nous, c'est absolument insupportable. Il faut absolument... Bon, nous avons déjà envoyé des missives auprès de Bercy pour que nous soyons reçus. Il faut absolument que le gouvernement nous explique, nous donne de la visibilité. Il faut absolument amplifier les indemnisations. Là, il ne s'agit plus d'aide maintenant. Il s'agit de nous indemniser. Nous avons été fermés. Nous méritons, nous avons droit à des indemnisations.
Il avait dit quoi qu'il arrive, vous le disiez tout à l'heure, Didier Chenet, mais aussi quoi qu'il en coûte. Alors le gouvernement va continuer à perfuser les restaurateurs avec le fonds de solidarité, le chômage partiel, le prêt garanti par l'État. Mais vous dites ça ne suffit pas aujourd'hui ?
Mais non, Christelle, vous l'avez dit vous-même. Vous avez parlé donc de prêts garantis par l'État. Mais ça, ce sont des dettes. Il faut que le fonds de solidarité, qui a été ouvert, très largement ouvert au mois de décembre, et qui a ouvert la voie à l'indemnisation, il faut maintenant le compléter, l'amplifier pour un certain nombre de branches de notre activité, de façon à ce que l'on puisse effectivement faire face à la situation, et notamment le problème des loyers. Vous savez que ce problème n'est toujours pas résolu. Là, il va bien falloir que nous réunissions sous l'égide du gouvernement avec les bailleurs, les assureurs, les banques, tous les professionnels pour essayer de sortir de cette situation qui est une situation inextricable.
Qu'est-ce que vous proposez, vous, sur les loyers aujourd'hui ?
Nous avions proposé que un tiers soit à la charge du locataire, un tiers soit à la charge du bailleur et un tiers à la charge, pourquoi pas, d'un fonds de solidarité auquel abonderaient les assureurs. Vous savez, les assureurs, ils ont fait des profits exceptionnels pendant le Covid, du fait qu'il y a eu moins d'accidents, du fait qu'il y a eu moins de cambriolages, que les entreprises étaient fermées. Et puis par ailleurs, lorsque les assureurs ont indemnisé les entreprises qui pouvaient bénéficier donc de la perte d'exploitation, ils n'ont payé qu'un tiers de ce qu'ils auraient dû payer. Car les deux autres tiers qui constituent les salaires, c'est en fait l'État, le contribuable qui a payé dans le cadre du chômage partiel.
Oui,
par conséquent, les assureurs doivent faire face à leurs responsabilités. J'en appelle à cette responsabilité. D'ailleurs, nous avons demandé qu'il y ait la création d'une commission d'enquête parlementaire pour savoir ce comportement des assureurs dans cette affaire. Mais maintenant, il faut absolument que nous sortions de cette affaire. Et puis, vous l'avez dit, il faut qu'on accélère cette vaccination qui est le seul remède contre le virus. Il y a peut-être une autre idée, si je puis me permettre, Christelle, c'est de dire, voilà, peut-être qu'à partir du moment où on accepte que le couvre-feu soit différent dans certaines régions, dans certaines zones, est-ce que l'on ne pourrait pas tenter de rouvrir un certain nombre de nos établissements dans des zones qui sont des zones vertes, mais sans couvre-feu ? Parce que si vous ouvrez et que vous devez fermer votre restaurant à 18h, ça n'a aucun intérêt. Donc je pense qu'il va falloir explorer, on le fait bien pour le couvre-feu, pourquoi ne le ferions-nous pas pour l'activité ?
Vous avez peut-être entendu ce matin sur RTL le chef Philippe Etchebest qui reprochait au gouvernement de ne pas avoir eu le courage de dire aux Français, au fond, restez chez vous pendant les fêtes. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Je suis d'accord avec lui. Je crois que effectivement, de toute façon, nous étions prêts, puisque nous étions fermés, en tous les cas, nous étions prêts. Nous avons fait preuve, je crois, de civisme. Nous avons fait preuve de responsabilité. Je pense que effectivement, le gouvernement aurait dû aller jusqu'au bout.
Bon, et on entend bien votre message aujourd'hui, qui consiste à dire, un, il faut rouvrir dans les zones vertes, essayons, et deux, il faut que les assureurs prennent leurs responsabilités. Merci beaucoup Didier Chenet d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Merci.
Merci.
C'est le mariage de l'année dans le monde automobile. Le groupe PSA Peugeot Citroën vient de s'allier officiellement avec Fiat Chrysler pour donner naissance au quatrième groupe mondial. Au total, ça représente 8 millions de véhicules sous un nouveau nom, Stellantis, venu du latin qui pourrait être traduit par étincelant. Et il y aura bien une constellation de marques, Christophe Bourreau.
Oui, car Stellantis en latin, cela veut dire exactement pluie d'étoiles, en référence en effet aux nombreuses marques du
Soyons
groupe.
Soyons précis.
14 au total. Alors, dans l'accord soleil des mariés dans cette pluie d'étoiles. On trouve côté français Peugeot, Citroën, DS ou encore Opel. Côté italien, il y a Fiat, Alfa Romeo et Maserati. À cela s'ajoute Chrysler, Jeep. L'union fait la force donc pour ce super groupe. Vous l'avez dit, quatrième. Alors derrière Volkswagen, Toyota et Renault-Nissan. Groupe qui sera piloté par l'actuel patron de PSA, Carlos Tavares. Avec au total 400 000 salariés. Indispensable regroupement en temps de crise pour investir notamment massivement dans l'électrique, mais aussi pour permettre à PSA de revenir sur le marché américain. Côté emploi, les nouveaux mariés l'ont promis, aucune fermeture de site, même si l'inquiétude est vive en Italie où les usines tournent au ralenti. Enfin, beaucoup se mettent à espérer des modèles communs avec un brin de nostalgie, puisque le dernier rapprochement entre Citroën et Maserati avait donné naissance à la mythique SM. Mmh. C'était il y a 50 ans.
Et elle était sublime.
Sublime.
Merci Christophe. Dans un instant, le reste de l'actualité avec notamment Donald Trump, le jusqu'au boutiste, et Julian Assange qui ne sera pas extradé.
RTL Midi.
Avec Christelle Robière.
Julian Assange ne sera pas extradé vers les États-Unis, en tout cas pas pour l'instant. La justice britannique vient de rendre sa décision concernant le fondateur de Wikileaks qui avait publié plusieurs centaines de milliers de documents confidentiels. Les États-Unis voulaient le juger pour espionnage. C'est donc une victoire pour le lanceur d'alerte. Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL.
Oui, une victoire, même si la juge a justifié sa décision ce matin par le fait que Julian Assange présente des risques pour sa sécurité. Son équipe le dit en profonde dépression et la juge estime qu'il y a des risques qu'il tente de se suicider s'il est extradé. La magistrate a estimé que la dépression de Julian Assange pourrait être exacerbée par l'isolement dont il serait possiblement soumis aux États-Unis. Elle a ajouté qu'il a l'intellect et la détermination pour trouver un moyen de déjouer les conditions de sécurité anti-suicide dans les prisons américaines. Et même une moitié de lame de rasoir aurait été retrouvée récemment dans sa cellule actuelle. Il est déjà suivi donc de près par des médecins dans sa prison londonienne de Belmarsh, où il pourrait retourner car les États-Unis ont immédiatement annoncé qu'ils faisaient appel de la décision, coupant court directement aux réjouissances des supporters de Julian Assange devant le tribunal londonien qui accueillait déjà sa remise en liberté. Mais les avocats de Julian Assange ont aussi dit de suite qu'ils allaient demander à ce qu'il soit libéré sous caution. L'audience pourrait d'ailleurs avoir lieu dans l'heure qui suit.
Marie Billon à Londres pour RTL. En France, l'organisateur présumé de la rêve parti à Lyon, près de Rennes, a finalement reconnu les faits en garde à vue. Il sera présenté cet après-midi au juge d'instruction pour une éventuelle mise en examen. De l'intimidation en direct, preuve à l'appui. Donald Trump, qui s'étrangle toujours sur le mot défaite, a demandé à un responsable républicain de l'État de Géorgie de trouver les bulletins de vote nécessaires pour montrer qu'il a gagné. Un coup de fil dévastateur diffusé hier par le Washington Post. Lionel Gendron.
Tour à tour en colère, menaçant ou plaintif, dans cette conversation téléphonique, Donald Trump offre toute une palette de son caractère.
Brad, qu'est-ce qu'on va faire ?
Brad, c'est Brad Raffensperger, responsable républicain du déroulement des élections en Géorgie, et Donald Trump est clair.
Il n'y a rien de mal à dire que vous avez recalculé. Je veux juste trouver 11 780 votes, un de plus que nécessaire.
11 780, car Donald Trump a perdu avec 11 779 voix d'écart. La ficelle est grosse, mais son interlocuteur ne se démonte pas.
Monsieur le Président, les données que vous avez sont mauvaises. Nous pensons que nous avons eu une élection juste.
Cet enregistrement illustre les coups de pression du président. Cela montre aussi qu'il est beaucoup trop confiant pour ne pas avoir imaginé que cette discussion fuiterait.
Lionel Gendron, RTL New York. Le coup de cœur de nos correspondants en région. Chaque jour, dans RTL Midi, l'un d'entre eux va mettre en valeur un personnage, une initiative locale, une belle histoire. Aujourd'hui, Frédéric Perruche, vous nous emmenez rencontrer une famille de Bourgoin-Jallieu qui recycle de manière particulièrement écolo les sapins de Noël déchus.
Oui, dans la famille Charpenet-Loche, je demande Roméo, Pépito et Cacao. Vous l'avez deviné à l'oreille, ce ne sont pas les trois fistons, mais trois jeunes et sympathiques boucs qui recyclent à leur façon les sapins de Noël, les sapins naturels bien évidemment, dans leur enclos de 500 mètres carrés. Ils les mangent.
Bah, ils sont très friands des sapins, voilà, ils adorent ça. C'est un peu, comme dirait mon mari, le foie gras des boucs. Ça leur fait du bien déjà, même au niveau digestif. Donc c'est un bon vermifuge, déjà, naturel.
C'est rempli de vitamines, c'est rempli de minéraux. Voilà, c'est très très bien pour eux.
Les trois copains en dégustent un par jour. Épines, écorce, petites branches, c'est à l'évidence bon pour eux. Et c'est aussi pour Yannick un petit geste écolo.
C'est écologique parce que finalement, souvent ils finissent à la déchetterie ou alors au pied des poubelles des particuliers. Ça fait une pollution visuelle également. Voilà, c'est utile, c'est écologique. C'est une deuxième vie au sapin. Un geste pour la nature.
Voilà, Roméo, Pépito et Cacao ont encore un peu de stock, mais si vous habitez dans le coin, du côté de Bourgoin, n'hésitez pas à amener votre sapin, si possible pas trop sec quand même. Nos trois boucs sont friands d'épines plutôt vertes.
Merci Frédéric, ça fait plaisir et ça débarrasse. Dans le Vendée Globe, la navigatrice Isabelle Joschke a une avarie majeure au niveau de la quille de son bateau. Elle est aux abords du Cap Horn, ça ne l'empêchera pas de poursuivre son tour du monde en solitaire, mais elle va devoir ralentir. Ils sont quatre à avoir franchi ce troisième cap et entamé la remontée de l'Atlantique vers les Sables d'Olonne. Yannick Bestaven en tête. Et on retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer au 32-10. Dans quelques minutes, on reprend nos bonnes habitudes. Pascal.
Exactement, le chiffre que vous avez donné en début de journal est terrible. 516 personnes vaccinées
en une semaine.
Donc à ce rythme, je ne sais pas quand on serait tous vaccinés, si c'est en 2050 ou 2060, mais quand en plus vous donnez...
C'était les chiffres au 1er janvier.
Oui, mais quand vous donnez en plus la comparaison, mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en France? On a raté les tests, on a raté les masques, on a raté le traçage, on a raté la stratégie isolement, etc. Mais en fait, on n'a rien réussi, sauf plutôt payer. On a bien payé hein, les uns et les autres, et ça, c'est une bonne chose. Et puis, on a fermé. Voilà, voilà ce qui est le bilan en 9 mois. Donc, ça fait réagir forcément. Et au 32-10, les uns et les autres pourront donner leur avis. Les autres thèmes, c'est la rave party en Bretagne, au sud de Rennes. Ça aussi, ça a beaucoup fait réagir. Pourquoi la police n'est-elle pas intervenue? Vous pourrez réagir également sur la séance de dédicace de Miss France, Amandine Petit. Images qui ont fait polémique.
Oui, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde autour d'elle.
Bien évidemment. Et puis, l'information peut-être principale d'aujourd'hui, c'est RTL qui le révélait ce matin. Les restaurants ne rouvriront pas le 20 janvier. Donc là aussi, si vous appartenez à ce secteur, et ça sera sans doute pas non plus le 20 février, peut-être pas non plus le 20 mars. Les restaurateurs sont extrêmement inquiets d'imaginer leur restaurant, leur bar, fermé jusqu'au mois d'avril.
Oui, surtout qu'ils ont déjà passé 6 mois fermés en 2020. Donc l'année démarre bien. À tout de suite, Pascal. Louis Baudin, il fait toujours aussi froid.
Oui, c'est ça, il fait toujours aussi froid. Si on commence par les températures, on ne dépassera pas les 1 à 3 degrés cet après-midi. Les endroits où ça ne dégèlera pas de la journée. Puis dans le sud, on sera entre 3 et 6 degrés à peu près, parfois un petit peu plus quand même sur la Côte d'Azur et la Corse, pas loin de 10 degrés. Tout ça avec un ciel gris sur toute la moitié nord. Je cherche les éclaircies. Il n'y en a pas pour l'instant. Les éclaircies, on les trouve un petit peu dans le sud-ouest, même si là aussi on a des nuages du côté du Pays Basque ou encore à l'est du Rhône ou même du côté de la Corse. Tout cela avec quelques flocons qui tombent ici ou là, toujours très difficile à localiser. Quelques averses également sur le Pays Basque, encore entre les Alpes et la Corse, avec quand même quelques éclaircies qui devraient se développer autour du Golfe du Lion, avec le retour d'un peu de tramontane.
Bon, et demain, tout pareil?
Tout pareil. Demain, je regarde ma carte, c'est la même, avec du gris partout. Quelques flocons ici ou là. Alors, il y en aura peut-être un peu plus du côté de la vallée du Rhône demain matin, notamment débordant vers le Massif central ou encore du côté de la Drôme, peut-être quelques centimètres. Quelques centimètres également dans la moitié nord ici ou là. C'est toujours aussi compliqué à prévoir. Et puis, de rares éclaircies peut-être autour du Golfe du Lion, c'est tout. Côté température, même chose. Dégelé le matin et des températures qui ne dépasseront pas les 0 à 4 degrés. Quelle que soit la région, il n'y a que près de la Méditerranée où on ira parfois au-dessus.
Bon, pas de neige en région parisienne demain?
Pas de neige pour l'instant, on la prévoyait, puis plus on avance et moins on la prévoit. Donc à suivre ces prochains jours. Mais le froid, lui, va persister.
D'accord, merci Louis. À suivre le rappel des titres sur RTL, il va être 13h.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Il est bientôt 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Est-ce que la campagne de vaccination est déjà un échec? Nous sommes avec Pascal. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Pascal. Meilleurs vœux.
Meilleurs vœux
à
vous.
Et toute votre équipe.
Vous êtes gentil. Échec déjà?
Pardon, j'ai pas compris.